Éric Fourier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes analyste gérant chez Fourpoint Asset Management. On va parler avec vous du secteur de la santé, un certain nombre de sociétés hein, européennes que vous connaissez bien. Peut-être un petit mot pour commencer sur cet environnement. Alors, on parle de pharmaceutique, on parle maintenant de medtech, de biotech. Cet univers-là, il évolue comment de votre point de vue?
Bah, tout d'abord, c'est un secteur qui a très bien fonctionné en bourse ces 2 dernières années. En 2012, le secteur a progressé de 32%, en 2013 de 23%. Donc c'est un secteur, malgré son caractère défensif, qui a attiré les investisseurs. Le secteur pharmaceutique européen reste difficile. Jusqu'à novembre, le secteur était, le marché européen en tout cas, de la pharmacie était en déclin. Il s'est stabilisé vers la fin de l'année, mais ça reste un secteur assez difficile. Les marchés français, espagnols, italiens sont toujours en déclin de 1 à 2%. Mais c'est un secteur sur lequel les sociétés se sont réinventées et ont vu leur cours de bourse progresser, leur valorisation se réévaluer par rapport à l'ensemble du marché aussi. Donc beaucoup d'intérêt des investisseurs, des sociétés qui arrivent à passer le cap des pertes de brevets et qui malgré un pipeline de recherche et développement toujours assez en difficulté, arrive finalement à se tirer d'affaire.
Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on parle souvent des pharmaceutiques comme valeur défensive, et puis on a eu des années où ce rôle défensif a été un peu compromis, notamment avec l'arrivée des génériques et de vraie concurrence dans ce secteur-là. On a vu aussi des gouvernements parler de réduction de dépenses de santé. Donc il y a eu un terreau, on va dire, défavorable à ce type de valeur pendant quelques temps quand même.
Effectivement, et les laboratoires pharmaceutiques européens et surtout américains ont dû lancer des programmes de restructuration très agressifs pour compenser la perte de brevets sur des blockbusters sur lesquels ils réalisaient plusieurs milliards de dollars de chiffre d'affaires. Donc, c'était une phase très difficile pour ces laboratoires. Et jusqu'en 2012, les chiffres d'affaires étaient en baisse constante. Ça commence à se stabiliser, mais comme je vous disais, la productivité de la recherche et développement est toujours médiocre.
Alors, on a eu plusieurs stratégies, notamment l'une d'entre elles qui consistait finalement à aller acheter de jeunes entreprises innovantes ou des entreprises effectivement de biotech. Ça a été le cas pour Sanofi par exemple, avec une grosse acquisition aux États-Unis. Il y a eu des stratégies mises en place pour réagir, pour trouver une nouvelle croissance, aller plus vite peut-être en développement.
Oui, effectivement, comme la recherche et développement de ces grands laboratoires était en perte de vitesse, elles se sont tournées vers les sociétés de biotech qui sont beaucoup plus innovantes et donc ont pu déployer leurs ressources financières pour acheter des pipelines. Une autre façon de voir les choses dans le secteur de la santé, c'est sortir de cet environnement pharmaceutique difficile, surtout en Europe, pour se tourner vers des sociétés de niche dans la medtech, qui, elles, ont le vent en poupe, qui bénéficient de la croissance des marchés émergents et qui sont sur des marchés de niche où la pression sur les prix est assez faible finalement.
Justement, ces pays émergents, hein, pour des sociétés peut-être qui ont un profil trop européen, si on pense à l'Inde et la Chine, il y a un potentiel important sur ces marchés-là pour elles, bon, à
Oui.
condition de réussir, bien sûr,
Oui.
d'avoir les autorisations et le succès.
Et à ce titre, on a deux beaux exemples en Europe. On a Sanofi, qui réalise plus de 30% de son chiffre d'affaires dans les pays émergents, et Bayer, également plus de 30% de son chiffre d'affaires. Donc ça les a pénalisés en 2013, dans la deuxième partie de l'année. Mais Bayer précisait récemment que le marché chinois, qui avait fortement ralenti dans la deuxième moitié de 2013, commencer à revenir sur des taux de croissance de 15-16% par an. Donc ça devrait bénéficier l'ensemble du secteur et en particulier Bayer et Sanofi qui sont très exposés à ces pays émergents. Et il faut savoir qu'à l'horizon 2020, les 2 tiers de la croissance du marché pharmaceutique mondial se fera dans les pays émergents. Donc c'est très important d'investir dans des sociétés qui ont cette exposition.
Alors, on peut s'intéresser avec vous à deux sociétés en particulier, hein, dont une italienne qui s'appelle Sorin, spécialiste dans la cardiologie. Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup de ce secteur-là, mais qu'est-ce qu'elle a justement pour vous dans son profil d'intéressant quand vous l'analysez?
Alors tout d'abord, c'est une société de taille moyenne. Elle capitalise 1 milliard d'euros en bourse et son chiffre d'affaires est aux alentours de 700 millions d'euros. Donc c'est une société de taille moyenne que les investisseurs connaissent peu aujourd'hui. C'est le leader mondial des machines cœur-poumon qui sont utilisées pendant les opérations à cœur ouvert où le cœur cesse de battre et c'est cette machine qui prend le relais du cœur. Donc ce sont des équipements qui sont critiques. et elle contrôle 70% de la base installée mondiale pour ce produit. Donc c'est un marché de niche d'un milliard d'euros par an. L'intérêt de ce dossier, c'est qu'il y a beaucoup de catalyseurs pour la société en 2014-2015. Tout d'abord, elle a une activité de pacemaker aux États-Unis dans laquelle elle n'a pas la taille critique et elle devrait annoncer des mesures de restructuration ou un partenariat avec un de ses concurrents pour régler le problème. Elle perd de l'argent aujourd'hui aux États-Unis sur cette partie-là. Ce n'est que 3% des ventes, mais ça pèse sur le sentiment des investisseurs. Et l'autre catalyseur que l'on peut voir, c'est la sortie du capital du private equity qui va permettre d'améliorer la liquidité du titre qui pourrait susciter éventuellement une OPA sur ce dossier. Et Sorin également est très bien positionné dans les pays émergents qui doivent s'équiper en infrastructures de santé. Elle est numéro 1 au Brésil avec 50% de part de marché et numéro 1 en Chine avec 60% de part de marché.
Alors là, on parlait effectivement du médical, toujours dans le secteur, mais là sur la partie emballage, ce qui est intéressant, c'est une société allemande qui s'appelle Gerresheimer. Alors l'emballage, on voit l'intérêt, puisqu'on le voit quand on va à la pharmacie, tout simplement. L'emballage, ça peut jouer un rôle important, mais qu'est-ce qu'elle apporte, elle, peut-être sur cette technologie ?
Alors tout d'abord, l'emballage paraît une activité simple a priori, mais les emballages doivent être approuvés par les autorités au même titre que les médicaments qu'ils contiennent. Donc les barrières à l'entrée sont immenses. Gerresheimer travaille pour quasiment tous les laboratoires pharmaceutiques mondiaux, aussi bien les laboratoires traditionnels que les génériqueurs, les laboratoires occidentaux et les laboratoires des pays émergents. Donc elle bénéficie de la croissance en volume du marché pharmaceutique. Les barrières à l'entrée dans ce secteur sont très élevées et elle a un pipeline de produits qui va lui permettre de croître de 6 à 8% par an au cours des prochaines années, alors que le marché pharmaceutique est sur un rythme de 3-4% plutôt.
Alors voilà deux exemples précis de valeurs. Qu'est-ce qui, dans votre environnement d'investissement, vous évitez ? Parce qu'on voit parfois des actionnaires, y compris des actionnaires individuels, s'intéresser à, on va dire, telle ou telle valeur biotech en pensant à une martingale, à un blockbuster, le fait que cette société explose et vale d'un seul coup 100 fois peut-être la valeur à laquelle elle est cotée en bourse. Quels sont les risques que vous voyez, vous, sur ce secteur et que vous évitez dans vos investissements, justement ?
Alors, en règle générale, nous, lorsqu'on investit dans une société, on aime comprendre vraiment de façon très précise le potentiel de cette société. Et donc, dans le cas de la biotech, par exemple, il faut comprendre les caractéristiques du médicament en développement, connaître la concurrence, savoir quel est le potentiel de ce médicament. Donc, ça demande beaucoup de travail. Nous voulons investir sur des sociétés qui ont un rythme de développement de l'ordre de 5 à 6% par an, un business model qui est déjà bien calé. Et donc nous pensons que ce type de société effectivement peut présenter beaucoup de potentiel mais est également très risqué. Donc nous, notre métier, c'est de gérer l'argent pour nos clients de façon stable, de faire croître les actifs de façon continue et nous ne pouvons pas nous permettre de prendre des risques pareils. Mais on voit bien le potentiel de ces sociétés puisque les laboratoires pharmaceutiques manquent de productivité en recherche et développement. Donc toutes les sociétés qui peuvent leur donner des nouveaux médicaments, des blockbusters futurs, ont une valeur en bourse phénoménale.
Et intéressera effectivement les grands groupes. Merci d'avoir fait le point avec nous, Eric Fourier.
Merci.
On rappelle que vous êtes donc analyste gérant chez 4Point Asset Management.
Merci.